Afrique, les infos à Washington.
Au micro, Nanit Talani, 17h en temps universel et à Lomé au Togo, 18h à Cotonou au Bénin. Bienvenue au journal. Les épidémies de fièvre jaune en Angola et en République démocratique du Congo sont sous contrôle. L'affirmation vient ce mardi de l'Organisation mondiale de la santé. Selon la directrice du département des maladies épidémiques et pandémiques de l'OMS, Sylvie Bryan, le risque d'une épidémie majeure est terminé. Cette bonne nouvelle est la conséquence des campagnes de vaccination massive lancées il y a 2 mois en Angola et en RDC. D'ailleurs, pour en parler, John Lindon a adjoint Tarik Djassarevich de l'OMS Genèse en Suisse.
Comme vous le savez, et on l'a déjà dit plusieurs fois, on a entrepris une deuxième campagne de vaccination dans les deux pays qui ont connu l'épidémie de la fièvre jaune, donc en République démocratique du Congo et Angola, où on a réussi à vacciner près de 12 millions de personnes, notamment à Kinshasa, où on a réussi en moins de 2 semaines de vacciner 7,7 millions de personnes dans la capitale de RDC. Et aussi, on a mené cette campagne de vaccination dans la zone frontalière entre les deux pays dans le but de vacciner et immuniser le plus grand nombre possible de personnes avant l'arrivée des saisons de pluie. Cela s'ajoute à des campagnes de vaccination qui ont été déjà faites depuis le début de l'épidémie en Angola. En Angola, on a réussi à vacciner au total, y compris donc avec cette dernière campagne, plus de 15 millions de personnes, ce qui nous a amené à une situation où on n'a pas eu de nouveaux cas confirmés de fièvre jaune en Angola depuis moins de juin. Et on estime que c'est un succès qui a été fait par tout d'abord les autorités sanitaires d'Angola avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'on ait d'autres cas, d'autres foyers dans d'autres pays? On sait qu'il y a eu l'Angola et la RDC.
Oui, tout à fait. Il y a un risque qui est réel et qui augmente en fait. Donc, cette dernière épidémie de fièvre jaune est la première en fait qui s'est déclarée dans les grandes villes comme Luanda ou bien Kinshasa. Ça nous dit que en fait avec l'urbanisation, avec une plus grande mobilité, avec aussi les changements climatiques, on peut s'attendre dans l'avenir d'avoir plus des cas de fièvre jaune dans tous les endroits où le vecteur, donc le moustique, habite. On sait que fièvre jaune est endémique dans plus de 40 pays, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, il faut se préparer à ce qu'il y ait dans l'avenir plus de cas et il faut préparer donc une réponse qui comprendrait notamment la vaccination des populations dans les zones à risque, aussi une introduction de la vaccination contre la fièvre jaune pour les enfants dans les pays où la maladie est endémique, mais aussi préparer les grandes villes à cette possibilité d'avoir des cas de fièvre jaune. C'est pour cela que l'OMS a organisé une réunion hier avec partenaires, effectivement pour voir comment s'attaquer à ce problème de fièvre jaune dans l'avenir.
C'était Tarik Djassarevich, joint par John Lindon. Tarik est de l'OMS suisse. Pour la RDC, l'ex-rebelle congolais Bosco Ntaganda en grève de la faim depuis la semaine dernière pour protester contre ses conditions de détention à la CPI. Et ses juges ont dit ce mardi qu'il était prêt à mourir. Nathalie Barge.
Je n'ai pas la possibilité de voir mon épouse et mes enfants dans des conditions normales. C'est la raison pour laquelle j'ai perdu tout espoir. Voilà pourquoi je suis prêt à mourir, a déclaré Bosco Ntaganda dans une déclaration lue par son avocat. L'ex-rebelle congolais a également demandé à maître Stéphane Bourgeon de ne plus le représenter et de cesser toutes les actions en justice en son nom. Il a cessé de s'alimenter la semaine dernière pour protester contre les restrictions à ses appels téléphoniques et les droits de visite mis en place depuis 2014, après que les juges aient conclu qu'il essayait d'interférer avec les témoins. Ntaganda a participé aux audiences ce mardi via un lien web vidéo dans le centre de détention de la CPI après la conclusion d'un rapport médical ce matin concluant que son état de santé ne lui permettait pas d'être déplacé. Il fait face à 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et crimes contre l'humanité concernant des attaques meurtrières à caractère ethnique en 2002 et 2003 dans l'Ituri, en République démocratique du Congo.
La police zimbabwéenne a interdit pour un mois dans les rues de la capitale Harare les nouvelles manifestations hostiles au président Robert Mugabe prévues par l'opposition. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le directeur général de la police quelques heures avant l'annonce de cette interdiction. Une coalition des partis d'opposition menée par le Mouvement pour le changement démocratique avait annoncé des manifestations samedi dans tout le pays. Depuis plusieurs semaines, le Zimbabwe est agité par une fronde populaire contre le régime du président Mugabe qui dirige le pays d'une main de fer depuis 1980.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Afrique du Sud, les autorités ont interdit ce mardi l'entrée sur leur territoire à un prédicateur chrétien américain dont les propos homophobes ont suscité une levée de boucliers de la communauté gay sud-africaine qui s'était mobilisée contre sa venue. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Toute la communauté gay sud-africaine s'est mobilisée contre la venue de Steven Anderson de la Faithful World Baptist Church qui était attendue ce week-end dans la nation arc-en-ciel où il comptait, je le cite, « conquérir des âmes ». L'annonce de sa visite avait suscité un tollé et une pétition en ligne contre sa venue avait recueilli plus de 600 000 signatures. Réactions qui ont poussé le gouvernement à intervenir. Le ministre de l'Intérieur, Malusi Gigaba, a annoncé que Steven Anderson, ainsi que les membres ou les proches de son église, sont interdits d'entrer sur le territoire sud-africain, ceci afin d'éviter tout préjudice et toute manifestation de haine, quelle que soit sa forme, contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transsexuels, autrement dit les LGBT, c'est ce qu'a précisé le ministre. L'Afrique du Sud, qui a légalisé le mariage gay en 2006, est un des pays les plus progressistes en matière de droits des LGBT. Steven Anderson doit se rendre prochainement au Botswana voisin, où l'homosexualité reste un crime.
Au Cameroun, les veuves et enfants de soldats morts dans la lutte contre Boko Haram affirment être négligés par le gouvernement. Plus de 200 soldats sont morts dans la guerre, laissant des centaines de veuves et orphelins dans une situation financière précaire. Le gouvernement camerounais a souvent pourvu à leurs besoins, mais il souhaite davantage. Pour certains, pourquoi ne pas prendre un métier ? Dans le monde d'aujourd'hui, notre grande édition du journal qui va passer tout à l'heure à 18h temps universel, vous pourrez suivre le reportage de Moki Edwin Kinzeka à ce sujet. Le président de Zambie, Edgar Lungu, a entamé ce mardi son mandat de 5 ans en exhortant le pays à l'unité nationale. L'appel a été aussitôt rejeté par son principal rival de l'opposition, qui répète que son investiture était illégale et anticonstitutionnelle. Dans son discours, le président Edgar Lungu a répété sa volonté de faire de l'économie sa priorité, alors que la croissance du pays a fortement ralenti ces dernières années, en raison notamment de la chute des cours du cuivre, sa principale ressource. Edgar Lungu, âgé de 59 ans, a été réélu le 11 août dernier, dès le premier tour du scrutin présidentiel, d'une courte tête avec 50,3% des suffrages, devançant d'à peine 100 000 voix le chef du principal parti d'opposition, Hakainde Hichilema, qui rejette depuis sa victoire en l'accusant de fraude. Aucune décision de justice n'a validé l'élection du président Lungu. Nous dérivons vers la loi de la jungle. La vérité, c'est que notre élection a été volée. C'est ce qu'affirme dans un communiqué l'opposant Hichilema, un homme d'affaires de 54 ans qui se présentait pour la cinquième fois à la magistrature suprême. Enfin, au Soudan du Sud, le rapport qui accuse l'élite politique et militaire de s'être enrichie en profitant de la guerre civile qui ravage le pays depuis décembre 2013 est de la foutaise absolue. C'est ce qu'a dit le gouvernement sud-soudanais qui a réagi à ce rapport publié hier par le groupe d'investigation The Sanctuary, dont l'acteur américain George Clooney est le cofondateur. D'après The Sanctuary, les familles des élites sud-soudanaises vivent souvent à l'étranger dans des villas de luxe de plusieurs millions de dollars. Ils passent leurs vacances dans des hôtels 5 étoiles et récoltent les bénéfices de ce qui semble être un système de népotisme et de contrats douteux. Le principal catalyseur de la guerre est en fait la compétition pour le contrôle des abondantes ressources naturelles du pays, notamment le pétrole, affirme encore ce rapport. Mais pour le porte-parole du président du Sud-Soudan, le rapport est trompeur et motivé seulement pour ternir l'image du président Salva Kiir et celle des généraux qui luttent pour le bien du pays. Voilà pour le journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure, dans une heure. En attendant, restez à l'écoute de La Voix de l'Amérique et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook et aussi notre site internet.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.